n'était pas tout à fait frais, vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne, ça tourne.
Déjà ?
Quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac, pouf.
Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite ?
Bah là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage ?
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonjour à toutes et bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Caméra Subjective, le magazine de Radio G consacré à l'actualité du cinéma. Vous pouvez nous écouter en direct sur le 101.5 FM, un mercredi sur deux à 19h, ou bien en podcast quand vous voulez sur le site de Radio G à la page de l'émission. Alors comme toute bonne émission, celle-ci est collective. Nous sommes deux ce soir dans le studio et derrière nos micros et nos masques. Bonjour Anne-Li.
Bonjour Margot. Une pensée amicale pour Véronique qui parachève habituellement notre trio et que nous aurons le plaisir de retrouver très bientôt.
Ce soir, nous vous avons concocté un programme spécial vacances scolaires parce que c'est déjà bientôt. Et oui, les parents s'en rendent compte.
Les parents savent.
Et vous entendrez donc nos coups de cœur autour du cinéma pour vous donner encore et toujours envie de voir des films, si possible en salle, une sélection de dates à retenir dans l'agenda ciné et un entretien autour de la distribution de films destinés aux plus jeunes spectateurs. C'est ça l'aspect vacances scolaires.
Et Margot, c'est toi qui as échangé avec Doris Gruel, responsable du label Little KMBO, qui conçoit et distribue chaque année plusieurs programmes de courts-métrages spécialement créés pour les plus jeunes et le jeune public.
Absolument. Et la dernière nouveauté de Little KMBO, c'est le programme Jardin Enchanté qui nous emmène, petits et grands, rêver, explorer, jouer, observer et prendre soin de la nature en six magnifiques courts-métrages d'animation. Ils sont en salle depuis cette semaine, à point pour les vacances scolaires. Avant d'écouter l'entretien avec Doris Gruel, je vous propose de nous mettre dans l'ambiance en écoutant la bande-annonce. Bonjour Doris Gruel.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de m'inviter.
Alors vous êtes en charge de la distribution des films jeunes publics pour le distributeur KMBO depuis plusieurs années. Les Petits Contes de la Nuit, Le Noël de Petit Lièvre Brun ou Chien Pourri, La Vie à Paris, c'est vous. Et ces jours-ci, vous nous proposez de découvrir en salle un nouveau et magnifique programme de court-métrage animé, Jardins Enchantés, destiné aux plus jeunes spectateurs. Alors, à l'approche des vacances scolaires en Anjou, nous avions envie de vous recevoir pour évoquer avec vous la richesse du cinéma pour la jeunesse et la spécificité de la distribution des films jeunes publics. Alors, Doris, j'aimerais commencer par une question que tout parent ou grand-parent se pose un jour, notamment pendant les vacances scolaires. À partir de quel âge peut-on emmener un enfant au cinéma ?
Alors, c'est une question assez simple d'abord, puisqu'il existe une loi en France. En dessous de 3 ans, on n'est pas supposé emmener les enfants au cinéma. Maintenant, depuis quelques années, il y a un certain nombre de salles de cinéma qui ont créé des séances spéciales pour les très très jeunes spectateurs qui font par exemple des séances pour un public de crèche ou des ciné-poussettes, et les parents peuvent venir avec des tout petits enfants. Et ces séances-là qui sont spécialement dédiées à ce très très jeune public qui n'est pas censé être en salle de cinéma peut donc venir découvrir des films dans des conditions spéciales. Donc souvent la lumière de la salle n'est pas coupée, ce sont des petites salles, le volume sonore est très bas. Voilà, l'idée c'est d'une première rencontre avec un lieu culturel, puisqu'il existe des œuvres pour cette tranche d'âge-là. Mais sinon, la situation générale, c'est plutôt à partir de 3 ans.
D'accord. Et donc j'entends dans votre réponse que même à partir de 3 ans, il y a quand même des conditions qui favorise en fait une bonne rencontre entre le jeune spectateur et l'œuvre qui lui est dédiée. C'est évidemment déjà la présence d'un adulte, alors ça peut être quelqu'un de sa famille ou j'imagine son enseignant. Et puis peut-être qu'on peut aussi se dire que c'est bien quand on emmène un enfant au cinéma d'avoir prévu, d'avoir le temps peut-être de discuter du film avec lui, parce que c'est parfois un choc très important quand un enfant découvre pour la première fois une œuvre sur grand écran.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on a tous des souvenirs plus ou moins intenses et parfois même plus ou moins heureux d'une découverte enfant dans une salle de cinéma. Ça laisse des traces et ce sont des souvenirs intenses qu'on garde toute sa vie. Et du coup, nous, l'idée de notre travail, c'est vraiment de faire des propositions qui soient adaptées à l'âge des enfants et vraiment avoir une recommandation technique pour des parents qui dès le plus jeune âge de leurs enfants souhaitent leur faire découvrir la salle, l'expérience du cinéma. Et le dialogue entre le parent et l'enfant, ou entre l'enseignant et l'enfant, est vraiment capital à la suite de la séance, voire même parfois en amont de la séance aussi, parce que par exemple, c'est pas évident pour un enfant qui va être plongé dans le noir pendant un temps assez long. Donc le fait d'expliquer que voilà, la magie du cinéma, elle a lieu dans le noir, c'est par exemple une information qui peut aider l'enfant à se sentir bien dans une salle. Il faut aussi imaginer que les dimensions physiques d'une salle de cinéma par rapport à la taille d'un enfant sont considérables. Ça aussi, ça peut faire l'objet d'une petite appréhension. Et l'idée, c'est de réussir à encadrer toute cette visite de la salle de cinéma, de sorte à ce que l'enfant trouve sa place.
Alors, au sein de votre maison KMBO, le label Little KMBO, qui s'occupe des films pour la jeunesse, a été créé en 2009. Quelles sont les spécificités des films jeunes publics pour un distributeur qui, au départ, est un distributeur de films tout public ?
Alors, la spécificité de ce catalogue, c'est le travail d'éducation à l'image. C'est un label qui a pour but de faire des propositions de cinéma art et essai qui s'adressent aux tout-petits. Donc on sort 4 films par an environ, en septembre, en décembre, au printemps, et, voilà, et souvent on a un festival l'été. Et l'idée, c'est vraiment de faire une proposition à la fois de sortie pour les familles, donc vraiment une proposition culturelle, mais tout notre travail consiste à concevoir pour ces sorties au cinéma du matériel pédagogique qui permette de prolonger la séance de cinéma et d'enrichir l'expérience de la salle.
Et donc du coup, pour rentrer un petit peu pour être un petit peu plus précis sur ce matériel pédagogique qui est destiné encore une fois à l'éducation à l'image, parce que c'est un élément important quand on emmène un enfant voir des films sur grand écran. Je crois que vous proposez des livrets qui sont destinés aux enseignants et qui peuvent être lus aussi par des parents, et puis aussi des podcasts audio sur toute la fabrication d'un film, ça c'est vraiment intéressant. Et puis également des outils pédagogiques qui s'adressent directement aux enfants, comme par exemple un cahier d'activité.
Oui, tout à fait. L'idée, c'est à chaque fois que notre matériel pédagogique permette à un de nos interlocuteurs d'avoir l'élément qui lui sera utile. Donc typiquement, le matériel qui est proposé aux salles de cinéma n'est pas le même que le matériel qui est proposé aux enseignants. Et de même, les brochures qu'on va faire en direction des enfants sont elles-mêmes pensées directement pour les enfants. Et l'idée, c'est d'avoir un matériel et un panel de propositions qui soit le plus complet possible, de sorte à ce que chacun puisse facilement s'emparer de nos films, de nos propositions, pour continuer la médiation auprès du jeune public.
Et c'est vrai que parfois dans les salles, on peut voir des expositions en fait, que vous concevez autour de ces programmes de court-métrage et qui permettent, parce qu'elles sont très bien illustrées, en fait, ça permet aux enfants, par exemple, d'appréhender comment est-ce qu'on peut faire un film d'animation, en quoi techniquement ça consiste. Tout ça, c'est assez fantastique aussi.
Oui, absolument. L'exposition, c'est un des éléments de ce vaste kit qu'on conçoit, qui est le plus ancien. Et en fait, l'idée, c'est que donc, nous, on fait des propositions et on choisit nos films parce qu'ils ont dans leur création, dans leur fabrication, quelque chose qui nous a plu. Ça peut être un film fabriqué avec de la dentelle, un film qui a été entièrement dessiné à la main. Et donc, nous, on a à cœur d'expliquer aux enfants comment se fabriquent ces films. Et l'idée, c'est aussi de très techniquement, de leur faire comprendre que voilà, l'animation, l'image animée, c'est quelque chose qu'on peut comprendre tout simplement avec le principe de la persistance rétinienne, du défilement des images. Et cette exposition, elle a vraiment pour but de familiariser les enfants avec les principes du cinéma, et spécifiquement du cinéma d'animation.
Alors, pour revenir sur un élément dont vous parliez un petit peu au début de votre réponse sur la spécificité des films jeunes publics, c'est aussi, on est actuellement dans une période depuis la pandémie où il y a de plus en plus de films qui sortent en salle parce que les distributeurs ont beaucoup de films en stock, entre guillemets, à sortir. Ce que je trouve intéressant avec le cinéma jeune public, c'est qu'il est assez intemporel. Et d'ailleurs, dans la distribution, ça se vérifie. Il est à la fois très saisonnier parce que, comme vous le rappelez, c'est lié souvent aux vacances scolaires, mais il y a aussi une très longue tenue en salle, finalement.
Oui, absolument. Alors, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la programmation sur ces films pour une tranche d'âge, disons, de 3 à 7 ans, c'est qu'elle est très étalée dans le temps, puisque voilà, on sait que les parents, s'ils arrivent à faire une sortie par semaine ou plutôt par mois avec leur petit de 3 ans au cinéma, voilà, c'est déjà une réussite. Donc, en fait, les salles de cinéma ont une programmation pour les tout-petits qui est bien plus ponctuelle que pour les autres publics. Mais par contre, les films sont tenus beaucoup plus longtemps dans les salles. Alors, souvent, il y a une séance le mercredi ou une séance le dimanche très régulière qui devient un rendez-vous pour les spectateurs. Et donc, du coup, les salles de cinéma gardent les films très longtemps. Ensuite, ce qui fait aussi que la durée des films, elle est très longue, c'est qu'une fois que le film est sorti et qu'il a fait il a eu sa première vie auprès du public, il y a aussi un gros travail de reprise qui est mené par les salles de cinéma pour le public des scolaires. Donc là, c'est la deuxième vie du film. Et ensuite, il y a un petit peu moins de sorties pour les tout-petits, il y a un petit peu moins de propositions que pour le public un petit peu plus âgé, disons. Donc les salles, elles reprennent aussi régulièrement les films à des périodes où il n'y a pas forcément une sortie, une actualité. Voilà, ce qui fait que les programmations sont beaucoup plus étendues dans le temps qu'un film classique. Enfin, il y a un dernier élément, c'est que les tranches d'âge auxquelles on propose nos films sont très serrées. Par exemple, on va proposer un film pour une tranche d'âge de 3-6 ans ou de 4-7 ans, et le public grandit très vite. Donc, au bout de quelques mois, c'est plus les mêmes enfants qui vont aller voir un film qui est destiné à des enfants de 3 ans. Absolument. Donc, les salles peuvent le reprendre pour un autre public aussi.
Et puis l'été, vous en parliez aussi tout à l'heure, vous proposez depuis quelques années, avec d'autres distributeurs jeunesse, un festival de films pour le jeune public qui s'appelle le Little Film Festival. Est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement en quoi il consiste et à quels besoins en fait il répondait lors de sa création ?
Alors en fait, le Little Festival, c'est une idée qui est née du constat qu'il y avait peu d'actualité justement de sortie cinéma pour les tout-petits à partir du mois de juin. Et ce jusqu'en septembre, où là à nouveau on a beaucoup d'actualités, on ressort des films, etc. Mais de juin à septembre, il y avait un petit creux dans la programmation, et les salles, si elles veulent rester ouvertes, il faut quand même qu'elles aient des propositions. Donc soit ils avaient des films de reprise, soit ils étaient un petit peu en recherche de films. Et ce qu'on s'est dit, c'était que ça pourrait être intéressant de créer un festival. Donc, c'est une sélection de 8 films, dont généralement 2 films d'avant-première qui sortiront ensuite en septembre, qui sont proposés à toutes les salles de France qui veulent participer. Donc, ce sont majoritairement des films de reprise, mais malgré le fait que ce soit des films de reprise, le fait que ça soit tout empaqueté dans un festival avec une bande-annonce, une affiche, un travail auprès de la presse, pardon, ça fait qu'il y a voilà, un effet d'actualité, une proposition culturelle vraiment dédiée à cette période estivale qui est faite, dont les salles peuvent s'emparer facilement, parce qu'il faut aussi se dire que le travail dans les salles de cinéma l'été, il est moins facile, il y a beaucoup de gens qui partent en vacances, c'est pas le même public. Les équipes des cinémas peuvent travailler en équipe réduite. Il y a souvent une fermeture, donc ça, voilà, ça crée du mouvement et une espèce de désorganisation pendant la période de l'été. Et ce festival clé en main permet, ou en tout cas nous c'est comme ça qu'on l'a pensé, permet aux salles de faire une proposition au niveau local qui s'adresse aux tout-petits et qui soit, on l'espère, le plus chouette possible.
En tout cas, chaque fois que je vois les affiches, ça donne très envie. Alors maintenant, j'aimerais vraiment revenir sur ce qui fait le cœur de votre travail. On a un petit peu commencé à en parler. C'est la création justement de ces séances de cinéma destinées aux plus jeunes. Parce que l'une des spécificités d'un programme de court-métrage par rapport à un long-métrage, c'est qu'il n'existe pas intrinsèquement. Et c'est votre rôle en tant que distributeur, justement, de choisir les films pour le constituer. Alors, sur quels critères est-ce que vous vous appuyez pour composer cette séance de cinéma pour les plus jeunes?
Il y a des critères, disons, qui sont toujours les mêmes. Et il y a des critères qui changent en fonction des programmes. Donc, peut-être, juste pour rappeler, donc, le programme... donc c'est la réunion de plusieurs courts-métrages, souvent entre 3 et 6 courts-métrages, pour une durée entre 35 et 50 minutes. Et l'idée, c'est que cette durée-là, elle est plus adaptée au très jeune public par rapport à un long-métrage. Donc, par exemple, la durée est un critère. C'est-à-dire que nous, ce qu'on essaie de faire sur ce programme qui va faire entre 3 et 6 courts-métrages, c'est d'avoir des durées qui sont variées, avec des films plutôt très courts et des films plus longs qui vont développer des histoires un petit peu plus conséquentes. Et trouver un équilibre, par exemple, sur la question de la durée, c'est important. Donc ça, par exemple, c'est un critère fixe. Ensuite, il y a des critères qui bougent, par exemple la thématique. Nous, on construit nos programmes autour d'une thématique. Donc là, par exemple, dans le cas de Jardins Enchantés, l'idée, c'était vraiment le jardin, la nature. Et à partir de ce thème, on fait des recherches. On fonctionne majoritairement au coup de cœur, c'est-à-dire que si les films nous plaisent, ils ont une chance de rentrer dans le programme, d'être sélectionnés dans ce programme. Pour revenir aux critères fixes, ensuite, une fois qu'on voit tous ces films, qu'on est capable de trier, de hiérarchiser, de prioriser certains films, on applique des critères un petit peu plus fixes. Par exemple, la question de la peur au cinéma sur un public d'environ 3-4 ans, c'est une question qui est fondamentale. Et nous, on a fait le choix, par exemple, de quasiment jamais sélectionner de film dans lequel il va y avoir un moment trop intense qui risquerait de faire peur à des jeunes spectateurs qui seront peut-être pour la première fois dans une salle de cinéma. Un son qui serait trop fort, un moment de sursaut, c'est quelque chose qu'on essaie de limiter au maximum parce que ça crée parfois des moments un peu de tension en salle et c'est pas du tout le but. Ensuite, on essaie aussi d'équilibrer entre des films qui vont avoir un aspect comique, du gag, un rythme plutôt enlevé, et des films plus au rythme plus calme. Et l'idée, à nouveau, c'est que l'enfant il puisse découvrir un panel assez complet et assez varié de courts-métrages. Et enfin, je dirais que le dernier critère, c'est la diversité des techniques d'animation. Donc là, on va essayer de chercher des films qui ne se ressemblent pas visuellement tout en partageant un thème commun. Donc, par exemple, dans le cas de Jardins Enchantés, il y a des films qui sont des films de stop motion, donc de volume, qui sont fabriqués à la main. Il y en a un qui est en feutrine et en laine. Il y en a un autre qui est fabriqué avec des pâtes Fimo. Il y a un film qui a été réalisé à l'ordinateur, mais c'est de la peinture. Voilà, on essaie d'équilibrer comme ça un certain nombre de ces fameux critères, en quelque sorte, pour concevoir des programmes qui soient visuellement très riches.
Et c'est aussi, j'imagine, l'idée de montrer dès le plus jeune âge aux enfants qu'en fait, l'animation, c'est beaucoup plus vaste que le dessin animé ou l'anime japonaise, qui sont peut-être les deux genres qu'ils ont le plus fréquemment l'occasion de voir à la télévision.
Oui, absolument. Et là, on revient un petit peu à l'autre activité de la société, donc KMBO. À l'origine, c'est une société de distribution de films art et essai. On fait beaucoup de films d'auteurs, de premiers films, de documentaires, souvent très engagés, souvent très militants. Et l'idée pour nous, quand on a ouvert ce département Little KMBO qui s'adresse aux tout petits, c'est aussi de participer à une très jeune expérience cinéphile qui ensuite va nourrir une histoire du cinéma et qui va permettre aux spectateurs de rester en lien avec ce cinéma art et essai tout au long de sa vie. Donc en fait, pour nous, il y a vraiment une passerelle à long terme entre Little KMBO et KMBO, ou en tout cas entre Little KMBO et le cinéma art et essai. Et c'est une manière vraiment de participer, de s'impliquer dans une éducation à l'image qui un jour constituera les bases d'une cinéphilie.
Oui, c'est vrai que c'est très important. Alors pour revenir sur votre nouveau programme de court-métrage Jardin Enchanté, vous proposez 6 courts-métrages d'animation et c'est une invitation en fait à une exploration colorée et quasi sensorielle de la nature à travers ces films. Alors, vous avez déjà parlé de la grande variété des techniques d'animation, des matières et le plaisir visuel qui en découle pour les enfants. Mais ce que je trouve aussi très intéressant dans ce programme, c'est la variété de l'approche de votre thématique des jardins. Puisque à travers ces 6 films, on a à la fois les jeux dans le jardin, il y a un film qui s'appelle « Cache-cache » notamment, l'idée de rêve en s'allongeant dans l'herbe, ça c'est le premier long métrage qui est adapté d'un poème de Robert Desnos. Et puis, on a aussi les questions très concrètes et très fortes pour un enfant du passage des saisons, du cycle du jardin, des insectes.
Bah là, pour le coup, c'est vraiment en fonction des histoires qui nous ont plu et qui ensuite nourrissent tout le travail qu'on va proposer autour des films. Et vraiment, pour nous, l'idée de ces programmes, et en tout cas un des enjeux de ces programmes, c'est à la fois de proposer quelque chose qui soit cohérent d'un point de vue de la thématique, du rythme, du programme, et en même temps qui soit le plus varié possible. Et typiquement, là, il y a des films qui sont très musicaux, il y a des films avec des dialogues, il y a des films qui sont issus de contes ou d'adaptations de la littérature de la jeunesse. Il y a un film qui est une adaptation d'un poème de Robert Desnos. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faire des propositions où chaque spectateur va pouvoir se retrouver, parce que sur cette tranche d'âge-là, il faut aussi imaginer que tous les enfants à 3 ans n'ont pas du tout la même sensibilité en grandissant. Il y a quelque chose de l'ordre d'une forme un petit peu d'uniformisation de leur expérience, mais là, ils sont à un stade de leur développement où ils vivent des expériences qui sont très, très singulières. Donc, on a aussi intérêt, pour approcher ce public très spécifique, de faire des propositions qui sont vraiment très variées, parce qu'il y a des enfants qui vont être très sensibles au langage, des enfants qui vont être très sensibles à la musique, des enfants qui vont être sensibles au rythme, aux gags, et des enfants qui seront déjà en mesure de suivre une histoire avec des enjeux narratifs un petit peu plus élaborés, un petit peu plus complexes. Et voilà, je crois que le programme, parmi d'autres programmes qu'on a fait, celui-ci à trouver vraiment une forme d'équilibre concernant cette variété de thèmes.
Absolument, Doris, c'est vraiment un programme de court-métrage que je vous recommande chaudement. Et puis, je vous remercie pour cet échange tout à fait éclairant sur la distribution jeune public. Alors, je rappelle que les plus jeunes spectateurs peuvent découvrir sur grand écran le programme Jardin Enchanté. Alors, il passe dès ce mercredi, notamment à Chalonne ou à Saumur. Et puis, vous pourrez le découvrir au cinéma de Mazet la semaine prochaine à partir du 9 février ou à Angers au Pâté à partir du 9 mars pendant plusieurs semaines. Sinon, pour les professeurs qui seraient intéressés d'emmener leur classe voir ce film, donc ça s'adresse plutôt à des classes de maternelle, KMBO fait vraiment un gros travail pour vous aider à organiser ces séances. Déjà, ils peuvent vous envoyer gratuitement tout le matériel pédagogique. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site. Il y a une adresse spécifique pour les enseignants pour pouvoir solliciter l'organisation d'une séance pour leur classe. Et la majorité des programmes de courts-métrages construits par KMBO sont disponibles en DVD que l'on peut trouver sur leur site internet ou dans les points de vente classiques, notamment, il me semble, à la Luciole, la librairie jeunesse à Angers. Bien sûr, nous remettons toutes ces informations et les liens sur la page de l'émission sur le site de Radio G. It's a god-awful small affair. With her mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore. She's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on. She was fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. And the best-selling show is their life on Mars. It's on a tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on singers fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the the best.
bien sûr, vous avez reconnu Life on Mars de David Bowie, que l'on retrouve sur la bande originale du dernier film de Paul Thomas Anderson, un film dont on va parler dans Caméra Subjective dans quelques instants. Et c'est l'émission que vous écoutez en ce moment sur Radio G. Mais avant de balayer l'actualité du cinéma, on va voir du côté des nominations des Césars.
Absolument, parce que la semaine dernière, vous avez peut-être entendu ça, mais ont été annoncés les films qui étaient sélectionnés pour participer à la cérémonie des Césars 2022, cérémonie qui aura lieu vendredi 25 février et qui sera animée par Antoine Decaune. Alors, le grand gagnant de ces nominations, c'est le film de Xavier Giannoli, Illusion perdue, adapté du roman de Honoré de Balzac, qui a 15 nominations dans différentes catégories, notamment pour ses comédiens. Ensuite, suivi par Annette, 11 nominations, et la bonne surprise, Aline, avec 10 nominations. Alors je dis bonne surprise parce que cette année, un élément qui est assez intéressant, c'est que les Césars se sont assez ouverts aux femmes. L'an dernier, la cérémonie se voulait très, très militante et ça n'avait pas forcément bien fonctionné pour, en termes de choix de films. Mais cette année, assez naturellement, les femmes se sont fait la part belle parce que, tout simplement, il y a eu des films formidables réalisés par des femmes. Donc, justement, où sont les femmes dans ces nominations ? Eh bien, on peut parler de Valérie Lemercier, qui est nommée avec son film Aline à 10 reprises, et notamment pour le César de la meilleure réalisation et du meilleur film. On peut parler de Catherine Corsini, la réalisatrice de La Fracture, qui, elle, a reçu 6 nominations, dont celle de meilleur film. On peut parler de Julia Ducournau, la réalisatrice déjà palmée pour Titane, et qui, là, sera présente dans la catégorie notamment de meilleure réalisation. Et enfin, on peut parler de Audrey Diwan, la réalisatrice de L'Événement, qui, elle, avait reçu le Lion d'or au Festival de Venise et qui est nommée comme meilleure pour la meilleure réalisation et le meilleur film. Et pour terminer ce rapide survol de ces nominations, j'aimerais juste vous signaler une sorte de film outsider. Il y en a tous les ans qui sont un peu des inattendus des nominations. Et cette année, c'est le second long-métrage de Arthur Harari qui s'appelle Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, qui reçoit 4 nominations, dont celle de meilleur film. Si jamais il repasse en salle, n'hésitez pas, allez-y, parce que c'était vraiment un film fascinant. Et surtout, la plupart de ces films, en tout cas ceux dont je viens parler, vont être repris sur grand écran cette semaine au 400 coups, non pas dans le cadre des Césars, mais parce que beaucoup d'entre eux sont aussi sélectionnés dans le festival Télérama.
Oui, un festival où on peut aller tout simplement dans nos habits de tous les jours, où il n'y a pas besoin d'invitation, et c'est super.
Ni de smoking.
C'est en ce moment et jusqu'au 8 février. Alors le festival Télérama, c'est l'occasion d'aller voir des films à prix réduit si vous avez le pass Télérama. Il faut aller bidouiller sur
le site. Il faut acheter le Télérama de la
Télérama.
Semaine.
Bon, ça va, c'est faisable. Et la séance est à 3,50. Et surtout, ce sont 16 films qui sont reprogrammés, donc qui ne passaient plus. Au 400 coups, vous pourrez revoir non pas les 16 films, mais allez, je l'ai fait. Dune, Drive My Car, First Cow, qui a été conseillé avec joie et passion par Margot dans cette émission.
Que je conseille toujours sur grand écran.
Donc c'est l'occasion. La Loi de Téhéran, qui est un peu plus sombre, ce me semble. Le Sommet des Dieux, pour parler d'escalade, d'alpinisme.
Et aussi pour se souvenir que les films d'animation ne sont pas réservés au jeune public. On en a beaucoup parlé en début d'émission, mais il y a aussi des films d'animation pour tout public, et celui-ci en est un. C'était une adaptation des mangas de
je ne sais pas le nom de l'auteur,
de Jiro Taniguchi. Donc c'est 5 mangas, Le Sommet des Dieux, c'est un magnifique roman graphique autour de l'escalade en milieu nippon.
Ouais, et d'escalade en extérieur,
d'alpinisme,
dans des endroits, voilà, avec des vrais enjeux. Il y aura aussi Nomadland de Chloé Zhao, si je ne me trompe pas.
Bon. Absolument, qui a reçu l'Oscar du meilleur film l'an dernier, qui n'est pas nommé cette année au César pour le meilleur film étranger, c'est assez surprenant. Mais ça, c'est aussi un parcours dans les marges de l'Amérique, à travers un personnage magnifique de femme qui décide de partir à la mort de son mari pour vivre sur la route.
En itinérance et qui croise plein d'autres personnes qui vivent ainsi. Et c'est vrai que le film est très beau, les images sont magnifiques. Les portraits aussi, où on ne sait pas tout à fait à quel point ce sont des personnages écrits et ou rencontrés sur la route. Donc oui, c'est un beau film, Nomadland. Il y aura aussi Inde Galante. Alors cette fois, c'est un documentaire sur le travail autour d'un opéra mis en scène par Clément Cogitor et chorégraphié par Bintou Dembélé. Les Indes Galantes, donc. Un classique de... J'ai oublié le nom du
groupe. De Rameau.
Merci.
Jean-Philippe Rameau de son prénom.
Je cherchais le prénom. Les Indes Galantes, donc, où on voit beaucoup de danseurs, de danseuses, des questions de chorégraphie, des questions d'être ensemble. Et c'est un opéra où on invitait des danse, qui sont traditionnellement peu à l'opéra.
Notamment le crump, qui est une danse urbaine créée aux États-Unis à Chicago, il me semble. Et effectivement, c'est Clément Cogitor qui va mettre en scène cet opéra, version tout à fait contemporaine, modernisée et très ouverte sur le monde.
Et on ne dit pas Cogitor, alors ?
Je crois qu'on dit Cogitor, mais écoute...
je suis désolée pour lui. Oui, c'est un chouette film aussi. Je l'ai vu, je l'ai apprécié. Très vivant, très énergique. Et ça donne envie d'écouter tout l'opéra aussi, et toutes les reprises. Et enfin, une avant-première avec le film « Vous ne désirez que moi ». L'avant-première aura lieu ce 6 février. Et je vous avoue que je n'ai aucune idée de quoi parle ce film. Donc c'est la surprise. Margot, tu en sais plus que moi ou pas ?
Je ne sais pas de quoi parle. Si, je sais que c'est avec Emmanuel Devos. Et surtout que c'est un film réalisé par Claire Simon, qu'on connaît beaucoup pour ses documentaires, parce que c'est une grande réalisatrice de documentaires, mais qui a également fait quelques films de fiction. Donc je serais très curieuse de découvrir celui-ci. Donc c'est dimanche à 11h en avant-première.
Donc maintenant tout le monde sait laquelle de nous deux est la plus professionnelle. Donc ça c'était le programme du festival Télérama jusqu'au 8 février. Allez-y, revoyez les films que vous avez ratés, c'est vraiment une bonne occasion. Et enfin, on a un coup de cœur commun avec Margot, avec un film qu'on a été voir et qu'on a envie de revoir, qui est encore en salle. Alors, on ne sait pas comment on prononce le titre, alors ça vous appartient, mais c'est Licorice Pizza ou Licorice Pizza. Qui sait ? On ne saura jamais. De Paul Thomas Anderson, c'est sorti soit fin 2021, soit début 2022.
Non, il y a début 2022, je dirais.
Et alors,
c'est toujours en salle.
C'est toujours en salle. C'est sous-titré drame, comédie, romance. Et en fait, ça résume vraiment bien le film, je trouve. C'est vrai. Est-ce que tu veux que je raconte l'histoire?
Je pense qu'il faut le pitcher rapidement, absolument.
Alors le pitch, on a Gary Valentine, qui est un jeune adolescent qui, je crois, a une quinzaine d'années. Et le jour de la photo de classe, il remarque l'assistante du photographe, qui, elle, s'appelle Alana Kane, et qui a 28 ans, une trentaine d'années. Donc on n'est pas du tout sur des personnages qui devraient se rencontrer habituellement. Mais Gary, il a un certain aplomb, la capacité d'aller parler à tout le monde. Il a une vie incroyable, ce jeune homme. Il est déjà acteur, enfin, il fait énormément de choses.
C'est un entrepreneur dans l'âme aussi.
Ouais, c'est un entrepreneur dans l'âme à 15 ans, bien plus loin que nous. Et donc, il va aller entreprendre de rencontrer Alana. Et
lui, oui. Vas-y. En fait, il lui propose de dîner et c'est cette audace qui va convaincre cette jeune femme de le retrouver à dîner et puis à chaque fois de le suivre parce que lui, et c'est ça qui est magnifique, c'est cette première séquence d'ouverture qui montre en fait leur rencontre et le coup de foudre en tout cas que lui a pour elle. Et c'est un magnifique plan séquence où on voit ces deux visages qui se rassemblent dans le même plan. Parce que, en fait, qui vont l'un vers l'autre d'une certaine manière, parce que lui marche vers le lieu où aura lieu la photo de classe et elle marche à contresens pour proposer un peigne et un miroir. Et tout est dit dans ce plan séquence, en fait, ce coup de foudre. Et tout le film va nous montrer comment ils vont pouvoir, en tout cas, comment elle va accepter de s'intéresser à ce minot qui a 10 ans de moins qu'elle, au minimum.
Oui, et puis qui est à la fois adorable, mais complètement insupportable. Et puis, je ne sais pas si on peut parler de coup de foudre ou pas. Enfin, c'est à la fois une histoire d'amitié, d'amour aussi, contrarié ou non. Lui, il est à la fois convaincant et très énervant. Donc, moi, j'ai aimé aussi parce que je trouve que ça mélange plein d'émotions différentes et qu'on ne sait pas tout à fait si des fois... elle a envie de faire autre chose. Enfin, il y a énormément de rebondissements aussi dans le film, beaucoup de personnages qui sont tous
ça,
assez formidables.
Ça, c'est aussi une grande réussite du film, en fait. C'est comment Paul Thomas Anderson arrive à décrire le lieu et l'époque de son enfance, donc les années 60-70, dans une banlieue proche de Hollywood. Et je trouve que ce film a aussi ça de charmant, que c'est une sorte de mélange extrêmement réussi entre le film de Quentin Tarantino qui s'appelait « Il était une fois Hollywood », qui parlait de Hollywood à la fin des années 60 et qui montrait un peu à quel point c'était un quartier qui pouvait être complètement barré. Et puis un film de Wes Anderson qui s'appelle Moonrise Kingdom et qui là aussi raconte une sorte d'amour adolescente très pur. Et enfin, ça fait tout le charme de ce film que vraiment on vous recommande de prendre le temps d'aller voir.
Ouais, vraiment très fort. La BO est formidable. Les acteurs sont très chouettes et c'est pas des acteurs
qu'on a l'habitude de voir.
C'est leur premier rôle, leur premier grand rôle en tout cas. Et la mise en scène, la caméra, bref, sont géniaux. Qu'est-ce que je voulais dire d'important ? Ah oui. Petit fun fact sur le début de l'histoire. Alors, je lisais que Paul Thomas Anderson a écrit donc ce film à partir d'une situation qu'il a vraiment vue, où il a vraiment vu un jeune homme d'une 14-15 ans proposer à une jeune femme de le retrouver au restaurant. Et il s'est dit, ok, qu'est-ce qui se passe ? Et si on imagine qu'elle va le voir, qu'elle le rencontre, et que peut-être elle y va, mais elle est énervée d'y être allée, etc. etc. On espère qu'on vous a donné envie d'y aller. On a mis l'émission en retard, ou plus particulièrement, j'ai mis cette émission en retard. Merci beaucoup, Margot. J'espère que...
Merci, Annelie. Bonne soirée. Bonne semaine de cinéma à tous.
Oui, mais on espère que vous avez apprécié d'écouter cette émission. Alors, toutes les infos sur caméra subjective et les sujets que nous avons abordés ce soir sont dans le podcast de l'émission. Vous le retrouvez sur le site de Radio G, www.radio-g.fr. À 20h, dans quelques minutes, ce sera Rudy's Back. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines avec un programme surprise.
Bonne soirée à tous.
À dans 2 semaines.
Radio G.